Infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, les 116 migrants encore bloqués sur le Gregoretti, un navire des gardes-côtes italiens, pourront débarquer dans les prochaines heures. Et ce, après un accord pour les répartir sur 5 pays européens. C'est ce qu'a annoncé le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, ce mercredi sur Facebook. La France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande, plus l'Église catholique italienne, ont accepté de prendre en charge ces migrants sauvés en mer et bloqués depuis plusieurs jours à bord du Gregoretti dans le port de Catane en Sicile. Afrique maintenant, Ebola en République démocratique du Congo, 16 jours après un premier cas de fièvre hémorragique à Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'est du pays, un second patient enregistré mardi renforce la menace d'une propagation de l'épidémie qui a déjà fait 1790 morts. Ce cas est le deuxième signalé de la grande métropole d'environ 2 millions d'habitants située à la frontière avec le Rwanda depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018. Le premier cas avait été découvert le 14 juillet et les deux provinces affectées, le Nord Kivu et l'Ituri voisine. RDC toujours, la plateforme politique d'opposition Lamuka dénonce la persistance de la corruption. Elle s'est réunie hier à Lubumbashi dans le Katanga sous la conduite de Moïse Katumbi qui a passé le flambeau à Jean-Pierre Bemba, lequel s'est fait représenter à cette rencontre. Plus de détails avec Eddy Sango.
Moïse Katumbi a réuni ce qui reste encore des leaders de cette coalition transformée en plateforme politique depuis avril. Martin Fayulu, Adolphe Mouzito et Eve Bazaïba, représentantes de Jean-Pierre Bemba absent, ont dénoncé la persistance de la corruption dans le pays. Ils ont fait le constat de la détérioration des conditions de vie de la population, de l'augmentation des inégalités sociales et de l'insécurité. Les leaders de la plateforme ont par contre exprimé leur engagement à mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle et la Commission électorale. La Mouka sera désormais dirigée pour 3 mois par Jean-Pierre Bemba, qui prend la place de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Deux de ses fondateurs, Antipas Mbusanya Mwisi et Freddy Matungulu, ont quitté la coalition pour se mettre au service du président Félix Tshisekedi.
Au Cameroun, de nombreux dysfonctionnements compliquent le règlement des conflits agro-pastoraux dans le pays. C'est ce que révèle une récente étude menée par des experts en gouvernance foncière. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
D'après l'étude, les personnes pauvres et vulnérables payent le plus lourd tribut des dysfonctionnements dans le règlement des conflits agro-pastoraux au Cameroun. Parmi ces dysfonctionnements, il y a les charges des frais de cession de règlement des litiges, dit à Christian Takou, géographe, environnementaliste et co-auteur de l'étude.
If you look at the cost that is involved,
si vous regardez les coûts qu'implique le règlement des conflits, c'est souvent payé par les communautés locales et nous pensons que c'est actuellement très élevé.
Or, la loi dispose que ces dépenses sont supportées par le budget de l'État. La violation de cette disposition empêche les plus pauvres de réclamer leurs droits. Autre problème majeur soulevé par l'étude, la marginalisation des autorités traditionnelles au sein de la commission de règlement des litiges agro-pastoraux. Dr Tani Robinson, chef traditionnel dans la région du Sud-Ouest.
Les bonnes lois existent, mais il y a une mauvaise application. Sur le terrain, notre position a diminué et cela nous fait perdre notre crédibilité. Nous voulons que le gouvernement renforce les communautés locales et leurs leaders pour résoudre les litiges en utilisant la diplomatie traditionnelle.
Des manquements accentués par la méconnaissance du texte de 1978 qui organise le fonctionnement de la commission. Moïse Mimbel Lom, l'un des auteurs de l'étude et coordonnateur d'action pour le développement communautaire.
Avec le document, les gens savent que quand la commission est saisie, elle a 3 jours pour descendre sur les lieux. Ça ne dépend pas de l'agenda du sous-préfet. C'est une obligation textuelle. À partir du document, les gens savent qu'ils ont un droit de recours devant la juridiction administrative dans un délai de 30 jours à compter de la décision de la commission. Mais les gens ne savent pas. Dans les localités, quand une décision sera prise, on croisera les bras et on s'arrêtera.
La Coalition internationale pour l'accès à la terre, ILC, encourage la gouvernance foncière centrée sur les pauvres et les personnes vulnérables. Au Cameroun, cet objectif est poursuivi par une plateforme d'une vingtaine d'institutions. Michel Sonkwe, facilitatrice de la stratégie nationale d'engagement.
On a l'impression que la législation en place c'est pour certaines personnes le seul moyen de sécurisation foncière au Cameroun qui est valable du point de vue du droit moderne en matière foncière, c'est le titre foncier. Mais lorsque on s'arrête pour voir les faits sur le terrain, le constat que l'on fait, c'est que les populations qui vivent en zone rurale n'ont pas les moyens d'accéder au titre foncier.
Faute de titre foncier, le nombre de litiges agro-pastoraux s'est accru au fil du temps. Dans le nord-ouest, en zone anglophone, les experts affirment que 52% des villages sont concernés par ce problème. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Nigeria, interdiction totale hier du groupe chiite IMN, le mouvement islamique du Nigeria, qualifié récemment d'organisation terroriste par le gouvernement nigérian après une vague de manifestations réprimées dans le sang. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Toute personne s'engageant ou s'associant de quelque manière que ce soit dans les activités du mouvement islamique du Nigeria sera considérée comme terroriste, ennemi de l'État et comme un élément subversif qui devra comparaître devant la justice, a déclaré Mohamed Adamou, inspecteur général de la police. Toute forme de procession ou de manifestation organisée par le mouvement est désormais illégale et interdite, a-t-il indiqué dans un discours dont l'intégralité a été publiée sur la page Facebook de la police nationale. Nous demandons le soutien du public pour nous aider à identifier les lieux où se trouvent des membres de ce groupe chiite et ceux qui les soutiennent, a-t-il ajouté. La présidence nigériane a annoncé dimanche l'interdiction totale pour terrorisme et activité illégale du mouvement chiite radical après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja pour exiger la libération du leader de ce mouvement, Ibrahim Zakzaki, incarcéré depuis 2015.
Afrique de l'Ouest toujours, le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Nketir a recouvré la liberté après plus de 5 ans de détention. Il a rejoint le Sénégal voisin, mais on ne sait pas s'il s'agit de sa destination finale, Bagassi Koura.
Reporters sans frontières a annoncé hier la remise en liberté le lundi à l'aube de Mohamed Cheikh Ould Nketir. Son avocate Fatimata Mbaye a confirmé que le blogueur a été relâché. La presse sénégalaise a affirmé qu'il est arrivé au pays de la Teranga sans préciser si c'était sa destination finale ou simplement un transit. Dans son article, le jeune blogueur critiquait l'utilisation de la religion musulmane pour justifier certaines discriminations contre la caste des forgerons. Son texte a été jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Détenu depuis janvier 2014, il a été condamné à mort pour apostasie. Cette peine a été ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017, mais la décision jugée trop clémente avait entraîné des manifestations. Ould Nketir était depuis maintenu au secret. En juin dernier, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, avait justifié cette situation par la sécurité personnelle du blogueur. Le nouveau président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, doit prêter serment demain jeudi à Nouakchott.
Actualité aux États-Unis maintenant, course à la présidence côté opposition démocrate. Les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren se sont retrouvés mardi soir à Détroit, dans le Michigan, sous le feu de leurs rivaux modérés lors d'un débat entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Les deux figures de l'aile gauche du parti défendent des réformes radicales pour battre le président Donald Trump en 2020, mais leurs rivaux ont exprimé leur peur de faire fuir les électeurs indépendants. Avec Bernie Sanders, Elizabeth Warren a défendu la création d'une couverture maladie universelle financée par des fonds publics sans aucun rôle pour les assurances privées, la fin des poursuites pénales pour les migrants entrés clandestinement aux États-Unis ou une couverture médicale pour les sans-papiers. Pourquoi être aussi extrême, s'est insurgé l'ancien parlementaire modéré John Delaney, tandis que le gouverneur du Montana, Steve Bullock, les a même accusés de jouer dans la main de Donald Trump. Pete Buttigieg, maire de South Bend dans l'Indiana, qui à 37 ans a réussi à se hisser à la 5e place dans les sondages avec près de 6% des soutiens démocrates, a tenté de rester au-dessus de la mêlée. Les projecteurs se tourneront ce mercredi vers Joe Biden, 76 ans, et la sénatrice noire Kamala Harris, en 4e position dans les sondages, avec 10,5%, dont la passe d'armes avait marqué le mois dernier le premier débat de la primaire démocrate.
Et pour terminer, négociateurs chinois et américains ont tenu aujourd'hui à Shanghai en Chine leur premier échange en face-à-face sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.